Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Villeneuve. Bonjour Philippe Villeneuve.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Philippe Villeneuve, vous êtes architecte en chef des monuments historiques, chargé de la restauration de Notre-Dame. Mais vous vous présentez comme ça, ça ne dit pas l'essentiel, je trouve. Ça ne dit pas que vous êtes un amoureux de Notre-Dame de Paris.
Oui, je suis totalement habité par cette cathédrale. C'est-à-dire que, alors, on pourrait me reprocher de personnaliser trop le chantier, de m'incarner trop, entre guillemets, à travers ces pierres. Mais c'est ce que je ressens au plus profond de moi. C'est cette cathédrale, ce sont mes pierres, c'est mon squelette, c'est mes tripes.
C'est votre corps.
Un peu, oui.
Vous vous fondez dans Notre-Dame.
Oui, je m'étais aperçu. Un jour, que quand je rentrais dans cette cathédrale, j'ai dit ça un jour, j'avais vraiment l'impression de me dilater totalement, c'est-à-dire d'épouser toutes les pierres, de rentrer dans les moindres chapelles, les moindres chapiteaux, les moindres clés douches. J'ai l'impression d'épouser le bâtiment. Ça fait un peu fou furieux de dire ça, mais après tout...
C'est la vérité.
Faut le dire.
Alors Philippe Villeneuve, vous avez choisi comme journée particulière le 19 décembre 1979. Ce jour-là, vous commenciez une maquette de Notre-Dame de Paris.
78 cm de long, 24 cm de large, 60 cm de haut. Vous l'avez reconnu, c'est une maquette de Notre-Dame de Paris. Elle est reproduite à l'échelle de 1/166. Elle a été réalisée entièrement en Bristol et en carton à partir de photos et de cartes postales. Cette maquette a nécessité l'emploi de 40 feuilles de Bristol, 15 feuilles de carton et d'une trentaine de tubes de colle. C'est un jeune saumurois, Jean-Michel Condemine, qui l'a réalisé. Il y a passé 1500 heures de travail depuis 5 ans et, n'abandonnant pas les cathédrales, il a l'intention de reproduire prochainement Notre-Dame de Strasbourg.
Vous riez, Philippe Villeneuve.
Ah oui, j'ai eu très peur parce que j'ai jamais tellement vraiment mesuré la mienne. Là où j'ai commencé à tiquer, c'était que les feuilles de Bristol, non. Et puis je me souviens pas du tout avoir parlé de cette maquette
à qui que ce soit.
Et c'était pas moi.
C'est une archive de 1971.
Oui.
Et vous avez commencé en 79. Vous aviez quel âge, Philippe Villeneuve, en 79?
J'avais 16 ans. C'est ça, oui.
Et alors, comment se fait-il que vous connaissiez la date de début de construction de cette maquette?
C'est parce que j'aime beaucoup les dates. Enfin, maintenant que je deviens un petit peu vieux et gâteux, je les retiens de moins en moins, mais j'ai retenu cette date parce que pour moi, construire ma cathédrale, c'était première pierre, boum, c'était...
C'est ça, c'est la première pierre.
Enfin, la première planche.
Alors, quel matériau vous avez utilisé, justement?
J'ai utilisé... Alors, en fait, j'avais une grande culture des Lego, parce que ma carrière d'architecte a commencé, j'avais 4 ans, dit-il prétentieusement, lorsqu'on m'a offert une boîte de Lego. Et puis ensuite, on m'a offert des disques d'orgue, ensuite, on m'a offert des bouquins sur les cathédrales, et vous mélangez tout ça,
et ça fait Philippe Villeneuve.
Ça fait moi. Et donc, j'ai commencé avec du balsa, comme toute maquette se faisait surtout en balsa, des avions, des bateaux, des choses comme ça. Bon, moi, j'ai fait une cathédrale, et puis après, j'ai rajouté des petits matériaux à droite à gauche. J'ai fait des expériences. Par exemple, la peinture pour tissu sur du plexiglas, c'est extraordinaire. Lorsque le soleil passe dedans, ça vous fait vraiment des petites taches de couleur sur les murs en face, c'est très bien.
Parce que vous avez travaillé aussi l'intérieur de votre maquette, vous avez essayé de retrouver la lumière,
oui, oui.
L'odeur.
Ah oui, alors c'est son lumière-odeur même.
Votre maquette?
Oui, c'est parce que il y a le son aussi, parce qu'il y a des petits haut-parleurs dedans. Donc j'allais régulièrement au concert à Notre-Dame de Paris à 17h45 parce que j'avais une admiration folle pour Pierre Cochereau qui a aussi empli cette cathédrale d'une vie sans pareil. Et
c'était l'organiste
de Notre-Dame de Paris avec un L majuscule. Et puis j'avais mon petit Walkman et j'enregistrais tout clandestinement. Alors il y a des bruits de chaises, des bruits de sacs plastiques à côté, tout ça, mais il y a l'ambiance de la cathédrale. Alors j'ai des concerts comme ça. Et je remettais ça dans ma maquette, parce que du coup, je revivais dans ma cathédrale ce qui se passait en vrai.
Donc vous diffusiez ces concerts dans votre maquette?
Dans ma cathédrale. Et alors, pour l'encens, alors les dimanches ordinaires, c'était du papier d'Arménie. C'est comme ça que j'ai caramélisé tout le transept nord. Et pour les grands dimanches, c'était carrément de l'encens, du vrai de vrai. Enfin, faut pas exagérer quand même. La lumière qui passait dans les vitraux, dans la fumée, ça faisait un effet absolument extraordinaire.
Et ça vous aviez l'impression de quoi? D'y être dedans?
Ouais. Oui, je revivais tout, j'étais bien, moi j'étais dans ma petite cathédrale. Oui, c'était un univers comme ça, j'aimais bien.
Mais cette passion pour Notre-Dame de Paris, elle date de quand?
Eh ben écoutez, je sais pas la date exacte, mais je devais avoir 7-8 ans, ça devait être au moment de ma première communion. Ma marraine, c'est elle qui m'a offert le premier livre qui parlait de Notre-Dame de Paris, de la Sainte-Chapelle. Donc j'ai eu ce livre-là, très, très vite, comme ça, c'était photo noir et blanc. Et puis là, j'ai commencé à me balader dedans. Puis ensuite, j'y allais au concert. Ma mère m'emmenait aux auditions d'orgue. Bon, et puis alors surtout, des fois, je restais jusqu'à la messe d'après parce que à la fin de la messe, il y avait des improvisations. Il y avait une improvisation. La sortie était improvisée. Donc c'était encore quelque chose de. C'était un cadeau de plus. Et les gens se mettaient debout et applaudissaient en se tournant vers la tribune. C'était magique.
Mais pour vous, Notre-Dame de Paris, c'est vivant. C'est un.
Oui.
Elle est vivante?
Oui. Elle est vivante par les gens qui y sont, elle est vivante parce qu'elle vous offre, elle est vivante à travers vous, je dirais pas que c'est un être vivant, etc. Mais, lorsque j'ai proposé de faire sonner le bourdon pour Jacques Chirac, je l'ai fait parce que je voulais que le monde sache que c'est pas parce qu'elle était éventrée, qu'elle n'avait plus d'âme, qu'elle vivait plus, et que son cœur battait toujours. Et le bourdon, en fait, voulait dire ça.
Donc, c'était son âme.
C'est aussi un être vivant, Notre-Dame, parce qu'à la limite, il suit la vie de l'humanité, enfin, depuis 850 ans, il rythme, il est là, les gens vont à Notre-Dame parce qu'on va fêter quelque chose, parce que... Donc c'est très humain, en fait. On vient se réfugier à Notre-Dame, de même qu'on vient éclater de joie à Notre-Dame.
Elle protège Notre-Dame?
Oui.
Elle entoure.
Elle a des voûtes très particulières. Elle enveloppe. C'est-à-dire que vous avez des cathédrales qui sont très hautes, très très pointues au niveau des arcs. La nôtre, elle a des formes de sorte de cocon, de parapluie, de protection. Elle vous coiffe. Elle vous enveloppe.
On peut s'y lover.
Oui, un peu. Oui.
Quelle chance alors vous avez, Philippe Villeneuve.
Oui.
Aujourd'hui, d'être en charge de Notre-Dame de Paris.
Aujourd'hui, non.
Aujourd'hui, non.
Non. C'est très très pénible. C'est très très épuisant. Vous voyez, je parle pas beaucoup. Je fais exprès. Et souvent, je me compare à quelqu'un dans le coma.
Pourquoi?
Parce que quand ça a brûlé, le 15 avril, bon, j'étais pas là, mais je suis arrivé sur le parvis, tout était quasiment fait. Et ce jour-là, si j'avais été le gamin, là, avec ses maquettes, son Cochereau et son Louis Vierne, etc., j'aurais pas continué, je me serais effondré. Bon, et en fait, j'ai tenu. C'est-à-dire qu'en fait, je dis souvent que le type qui dirige le chantier, là, depuis plus d'un an et demi, ça, c'est pas moi, c'en est un autre. C'est un instinct de survie, c'est quelqu'un qui est sorti de moi. Parce que moi, je suis dans le coma. Avant, je disais que j'étais mort, mais non, parce que c'est pire. Je suis dans le coma, c'est-à-dire que de temps en temps, je me réveille. Et quand je me réveille, c'est pour constater que la cathédrale est éventrée, que la flèche a disparu, que la charpente n'est plus là. Que la silhouette de Notre-Dame, avant de la retrouver, quel travail il va falloir faire. Et là, ça me replonge dans le coma, et à ce moment-là, je me remets au boulot sur Notre-Dame. Donc, depuis, je suis plus là.
Sauf qu'on peut dire que vous allez sortir du coma, un jour.
J'espère sortir du coma en 2024, quand la mission qu'on m'a confiée sera, j'espère, atteinte.
En attendant, en 1979, vous étiez un gamin heureux quand vous avez commencé cette maquette. Vous avez mis 2 ans, je crois, à la faire, et vous avez même loupé votre baccalauréat à cause de cette maquette de Notre-Dame.
Oui, je faisais croire à ma maman que je m'enfermais dans la chambre pour réviser, et en fait, je m'enfermais dans ma chambre pour découper des bouts de bois. Et...
Est-ce que vous vous souvenez qu'en 1979, Supertramp sortait leur album Breakfast in America?
Eh ben oui, vous savez pas.
Non.
J'avais beau me gaver de cochereau, j'étais dans une école où il valait mieux être branché. Donc je disais pas trop que j'aimais l'orgue.
Philippe Villeneuve, Supertramp, donc pas du tout votre tasse de thé, mais obligé de l'écouter?
Ah non, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, non, il y a pire. Non, ça c'était bien, ça passait bien, mais j'écoutais quoi, c'est tout, voilà. Mais j'ai même le disque, hein, faut pas pousser.
Ah bon,
hein.
Alors là ça va alors.
Ah non, mais attendez, il fallait que je fasse à la mode autrement. Mais j'en ai deux comme ça, hein, pas plus, hein. L'autre je sais même plus qui c'est, mais... Autrement, j'ai tous les Cochereau, mais ça intéresse pas grand monde. Hein.
Donc, Cochereau, toujours ce fameux organiste. On va en parler un peu plus tard, Philippe Villeneuve. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, le 19 décembre 79, c'est votre journée particulière. Philippe Villeneuve, vous êtes depuis 2013 architecte en chef des monuments historiques chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris. Et bien sûr, évidemment, impossible de parler de Notre-Dame de Paris sans parler de Victor Hugo.
On ne saurait se faire une idée de sa joie les jours de grande volée. Au moment où l'archidiacre l'avait lâché et lui avait dit « Allez !» Il montait la vis du clocher plus vite qu'un autre ne l'eût descendu. Il entrait tout essoufflé dans la chambre aérienne de la grosse cloche. Il la considérait un moment avec recueillement et amour. Puis il lui adressait doucement la parole. Il la flattait de la main, comme un bon cheval qui va faire une longue course. Il la plaignait de la peine qu'elle allait avoir. Après ses premières caresses, il criait à ses aides placées à l'étage inférieur de la tour de commencer. Ceux-ci se pendaient au câble. Le cabestan criait. Et l'énorme capsule de métal s'ébranlait lentement. Quasimodo, palpitant, la suivait du regard.
C'était évidemment un extrait de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'était un extrait du livre 4, précisément, lu par Jean Deschamps, de la Comédie française. On voulait vous faire écouter cet extrait, Philippe Villeneuve, parce qu'on pensait que cette émotion qui est décrite dans ce texte, vous la connaissez. Vous parliez du bourdon, hein, c'est exactement de ça dont il est question. Ça ne vous est pas étranger, cet amour que Victor Hugo décrivait, l'amour de Quasimodo pour Notre-Dame de Paris?
Oui, d'ailleurs, dans cet extrait-là, on voit qu'il ne parle pas. Il est admiratif, il touche, il caresse, mais il ne parle pas. Et ben c'est pareil, je la caresse, je caresse les colonnes, et ça m'a aussi rappelé quelque chose qui m'est arrivé. Je venais d'avoir les clés, parce que la chose la plus belle qui me soit arrivée, c'est quand on m'a accueilli à Notre-Dame, et surtout qu'on m'a donné le trousseau. Et contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai pas ressenti une espèce de gloire de me dire ah ça y est j'ai les clés c'est formidable. Non, j'ai ressenti une espèce de poids mais assez violent. C'est la raison pour laquelle au bout d'une semaine je l'ai remis le trousseau en disant écoutez si jamais je la perds je préfère au moins qu'elle soit stockée là, donc je me suis défait du trousseau. Mais il m'est arrivé ça m'arrivait très très souvent de venir à Notre-Dame et de prendre le trousseau et de me balader partout. Alors j'avais des endroits privilégiés, j'adorais me mettre au pied de la rose sud, je contemplais la rose nord, je regardais cité cité, la dimension des chapiteaux, la dimension des clés de voûte, tout ça. Et m'est arrivé d'aller dans la charpente, évidemment. Et un jour, je me suis assis à la première marche de l'escalier à vis de la charpente qui mène au sommet de la flèche. Et j'ai une petite voix qui m'a dit « Regarde, regarde, regarde ». Alors j'ai commencé à regarder. Bon. Et puis tout d'un coup, j'ai constaté qu'il y avait des bouts de bois, des éléments de la flèche qui étaient sortis de leur axe, qui avaient pivoté légèrement. Panique à bord, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme il y avait des coups de vent, il y a eu la tempête de 99, il y a eu tout ça, je me suis dit, tiens, mais Viollet-le-Duc n'avait-il pas écrit que tous ces structures de bois périssaient toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, elles se soulevaient, elles se tordaient et elles tombaient. Et là, je me suis dit, ça y est, elle s'est soulevée, elle a tordu, elle va tomber. Alors, simple petit mouvement de panique, mais après, je me suis raisonné, j'ai réfléchi, j'ai dit, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est des moments où on est seul dans le monument, on sait que ça grouille en dessous, c'est pas les coulisses, c'est un lieu à part, donc qui aujourd'hui a toute sa valeur, si on peut dire, puisque cet espace a disparu dans les flammes. Donc ça aussi, ça c'est quelque chose que je voudrais retrouver.
Mais vous allez le retrouver, Philippe.
Peut-être.
Je suis sûre que vous allez le retrouver. C'est en préparant cette émission que j'ai appris plein de choses, Philippe Villeneuve, et je dois vous en remercier. Et par exemple, j'ai appris qu'en 1830, donc un an avant que Victor Hugo ne publie Notre-Dame de Paris, Notre-Dame était abandonnée, elle était vouée à la destruction. Elle était dans un état de décrépitude. Et c'est le texte de Victor Hugo, c'est ce texte donc de Notre-Dame de Paris, qui a sauvé la cathédrale. Je ne savais pas du tout ça.
Notre-Dame de Paris est un immense bâtiment, un énorme monument. On ne se rend pas compte, hein, elle est posée là, on est tellement habitué à la voir, mais c'est énorme, c'est gigantesque. Et en outre, c'est du style gothique, dit gothique, par un architecte italien de la Renaissance qui trouvait que c'était tellement nul, vive l'Antiquité, et donc du coup, il a qualifié l'architecture ogivale de gothique par rapport aux barbares. Et donc, l'architecture gothique, en fait, elle était totalement tombée en désuétude, c'était affreux. Ce qui est quand même assez amusant, c'est que la structure même du gothique a perduré parce que le Panthéon de Paris, qui est une architecture ultra classique avec dôme, etc., a une structure complètement gothique. Mais on le voit pas, c'est caché par des murs, il y a des arcs-boutants, il y a tout ce qu'il faut derrière. Et donc, Notre-Dame de Paris était devenu un bâtiment, en fait, qui emmerdait plutôt qu'autre chose, et au XVIIIe siècle, on n'aimait pas trop ces trucs-là, donc on a écrété tout ça, on a enlevé toutes les gargouilles, on a enlevé les crochets. Alors, il y en avait quelques-unes qui tombaient, mais il y en avait quelques-unes, on se disait, c'est pas la peine, ça sert à rien, donc on a mis des gouttières, on a mis des choses comme ça. Si bien qu'elle a perdu aussi tout son côté fantastique, entre guillemets, Et on accuse à tort Viollet-le-Duc d'avoir ajouté des trucs et des machins fantastiques dans le livre qui est sorti là de Guilhermy et de Viollet-le-Duc, qui décrit Notre-Dame de Paris pour l'archevêque. Il est clairement indiqué qu'il y avait des restes de griffes d'animaux au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la galerie des chimères, et qui prouve bien qu'il y avait bel et bien des sculptures à cet endroit-là. Il y avait des gravures du XVIIIe siècle qui montrent très bien justement ces espèces de petits oui-oui pas suffisamment précis, mais on imagine qu'il y avait bien des chimères comme ça. Et donc Viollet-le-Duc, il a jamais fait que redonner vie à quelque chose qui était tombé en désuétude et qui allait partir effectivement à la benne. La Révolution française, on y a échappé, mais comme c'est pas permis, heureusement elle a été transformée en temple de la raison, mais un peu plus, ça devenait comme beaucoup de cathédrales ou de grandes abbayes, un tas de pierres, une carrière.
Mais alors, Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris et Viollet-le-Duc va s'inspirer des descriptions de Victor Hugo?
Non.
Pour restaurer Notre-Dame de Paris?
Non. En fait, Viollet-le-Duc n'était pas un fantasque. Hein. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait en pleine connaissance de cause. Mais c'est un précurseur aussi. Il se trouve que ce sont deux courants qui se parallèle. À l'époque, les monuments historiques n'existaient pas. Mais en 1830, on a créé l'inspection générale avec Prosper Mérimée, avec tous ces gens-là. Et Prosper Mérimée était un ami de Viollet-le-Duc. Donc vous voyez, tout ça, ça se mélange. Donc d'un côté, la littérature, l'alerte, les lanceurs d'alerte, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et Viollet-le-Duc, lui, était dans le courant de l'architecture et de la restauration. Le mot monument, le mot restauration, ce sont des mots qui sont tout neufs à l'époque de Viollet-le-Duc.
Donc Viollet-le-Duc a la lourde tâche de restaurer Notre-Dame de Paris. Ça dure pendant 20 ans, hein, ça durera 20 ans ce chantier. Et il se trouve qu'en 1979, l'année même où vous commencez votre maquette, Philippe Villeneuve ouvre au Grand Palais une grande exposition sur Viollet-le-Duc pour fêter le centenaire de sa mort. Vous y allez, vous avez toujours 16 ans, et là vous découvrez un génie, vous tombez en admiration devant Viollet-le-Duc. Vous avez une grande admiration pour lui.
Ah oui, c'est alors jusqu'en 79, il était de bon ton de vomir Viollet-le-Duc, de dire ce qu'il a fait à Notre-Dame, c'est n'importe quoi, Carcassonne, c'est affreux, Saint-Sernin de Toulouse, mon Dieu, regardez, c'est du Viollet-le-Duc, la cathédrale de Paris, c'est du 19e, c'est du Viollet-le-Duc. Et puis en 79, on s'est quand même rendu compte que le type qui avait fait ça était loin d'être un fantasque, un fou furieux. Il avait un génie personnel, un talent extraordinaire, un dessinateur remarquable. Quand il a fait son tour d'Italie, parce qu'il fallait faire ça à l'époque, il a voyagé en Italie, il a ramené des dessins extraordinaires, il a ramené une culture extraordinaire, et puis, bon, après, il s'est intéressé aux cathédrales. À 24 ans, le petit Viollet-le-Duc, on lui a confié la restauration de la Madeleine de Vézelay. Personne n'en voulait de ce tas de cailloux qui risquait de se casser la figure, et ben lui, il a relevé le défi. Et c'est ça, d'ailleurs, qui a fait que sa carrière a démarré.
Alors, je vous propose de monter sur... en haut de Notre-Dame. D'accord ? On va grimper sur Notre-Dame ensemble.
Le micro qui coince dans la corde. Mais tout va bien. J'arrive.
Tu as vu sur qui tu t'appuies là ?
Comment ?
Elle est merveilleuse.
Elle est belle, cette gargouille, oui. Quand je pense que Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris en quelques mois, qu'il avait sûrement pas fait ce qu'on a fait. Alors attends, là, où est-ce que je pourrais mettre ma main?
Là, voilà, ici, bonne prise ici. Voilà.
Non, c'est bon, faut juste que j'amarre mon pied.
Alors là, on est dans une partie merveilleuse parce que... D'abord, on est dans une partie récente. Malgré les apparences. On est sur la flèche.
Wow.
Premier étage.
Ah, mais voilà Viollet-le-Duc.
Et voilà Viollet-le-Duc.
Ah, alors... oh, c'est lui qui se tient la tête à l'envers.
Mais oui, mais alors c'est très bizarre parce que si tu veux, tu as les 12 apôtres.
Il s'est fait une tête plus grosse, non?
Ben, d'abord, c'est le seul qui ne regarde pas dans sa direction cardinale. Ouais. Tous les autres regardent dans leur coin de la Rose des Vents.
Lui regarde vers nous, donc vers
la
flèche.
Et lui regarde vers son œuvre. Et il a dans la main droite son thé d'architecte.
et la gauche à l'oreille comme pas si sur la tête.
Alors, si, mais tu sais, c'est un peu la position de quand tu te dis, mais mon Dieu, c'est moi qui ai fait ça. Alors, est-ce que c'est une preuve d'immodestie
voilà, ou c'est ce que
d'humilité
je suis fou.
C'est bizarre. Hein,
c'est un geste, c'est pas le penseur.
C'est pas le.
Il écoute pas la mer dans la paume de sa main.
Non, c'est moi. J'ai un peu l'impression que c'est le geste de quand tu te passes la main dans les cheveux parce que tu n'en reviens pas de quelque chose. Mais il tourne le dos. Il tourne le dos à Paris.
Tourne le dos à la ville.
Mais enfin, moi, il m'émeut ce type parce qu'il a. On lui en a tellement voulu de ses reconstitutions alors qu'au fond, Notre-Dame est là quand même.
Ça, c'est pour vous faire plaisir, Philippe Villeneuve. Alors, c'est une productrice qui s'appelle Sophie Nolot qui a décidé pour les ateliers de création radiophonique d'escalader avec un guide Notre-Dame. Vous la connaissez bien, cette statue de Viollet-le-Duc, qui paraît qu'il a écrit « Je ne doute pas »
oui,
sur sa robe.
Alors, c'est pas sa robe, c'est sur son équerre. En fait, il a une règle. Il tient la règle des architectes, parce qu'il est représenté en Saint Thomas, dans les 12 apôtres. Saint Thomas, c'est le patron des architectes, et c'est « Je ne doute plus », enfin, la traduction, on sait pas trop. Et il est marqué « Jean-Emmanuel Viollet-le-Duc a construit cette flèche ». Effectivement, c'est la statue qui représente vraiment le visage de Viollet-le-Duc. Il est représenté au moins 3 fois dans la cathédrale, 1 fois sur le portail, vous avez dans la Galerie des Rois, la 8e statue en partant de la gauche, c'est celle de Viollet-le-Duc. Vous avez également celle de Lassu qui est de l'autre côté, parce que Viollet-le-Duc n'était pas seul au début, il a travaillé
ont été
avec
deux
Jean-Baptiste
Lassu.
Et puis, il est représenté également dans la sacristie, à l'extérieur, en train de... je crois même en Maurice de Sully, c'est-à-dire le fondateur de la cathédrale. Mais c'était quelque chose de tout à fait banal. Vous avez à la Sainte-Chapelle la tête de tous les sculpteurs, architectes. Et là, on est en train de restaurer les statues qu'on a déposées le jeudi. L'incendie a eu lieu le lundi. Heureusement, on a sauvé ces statues, dont celle de Viollet-le-Duc. Elles sont là, 3 viennent d'arriver à la Cité de l'Architecture et au Palais de Chaillot. Toutes restaurées, telles qu'elles vont être, j'espère, reposées à leur place d'origine, elles sont brunes, comme à l'origine. Là, on est habitué à avoir les statues vertes, parce que le cuivre s'est oxydé, mais la réelle couleur, c'est brun, et on l'a sur les photos anciennes, où on voit la cathédrale à peine terminée d'être restaurée, et vous avez les statues brunes et le plomb gris. Tandis que maintenant, on avait des plombs noirs et des statues blanches, enfin vertes.
Et les gargouilles, les chimères vont être restaurées aussi? Elles ont été abîmées ou
alors,
pas?
Il y en a 2 qui ont été un petit peu abîmées. On va probablement les refaire à l'identique, parce qu'on va probablement pas les remettre à leur place, parce que trop fragiles. Mais c'est tout, il n'y a pas eu... En termes de maçonnerie, il y a eu les voûtes qui ont été touchées, ça c'est sûr, parce que la flèche s'est effondrée dessus. Mais autrement, en termes de maçonnerie, il n'y a pas eu de gros dégâts.
Philippe Villeneuve, si je vous écoute bien, l'architecture, les Legos, l'architecture, Viollet-le-Duc et la musique vous ont construit. C'est ça qui vous construit, c'est votre colonne vertébrale.
Bah pour en revenir à Victor Hugo, une phrase que j'adore de ce monsieur, il dit que l'architecture, c'est de la musique pétrifiée. Et je trouve que c'est complètement ça. Regardez Notre-Dame de Paris, c'est un rythme d'arc-boutant, c'est un jaillissement de pinacles, c'est des horizontales, des verticales, des ombres, des lumières, c'est de la musique.
Thank you.
C'est Olivier Latrie qui joue là sur les grandes orgues de Notre-Dame, la Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, une des œuvres pour orgue les plus connues au monde, Philippe Villeneuve, j'ai découvert ça. Ces orgues participent de votre amour de Notre-Dame, l'instrument.
Oui. Alors, oui. La musique, l'architecture, c'est vraiment mes deux constituants. Et l'orgue en particulier, et surtout celui de Notre-Dame, mais surtout celui de Cochereau.
Alors, faut que vous nous parliez un peu de Cochereau, parce que depuis le début, peut-être on l'écoute avant de parler de Cochereau. Donc, ça a été un des grands organistes de Notre-Dame, un des titulaires des grandes orgues de Notre-Dame. On l'écoute et après, vous nous en parlez.
Alors, Pierre Cochereau, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment marche un orgue ?
C'est très simple. Le doigt ou le pied de l'organiste, par un système électrique, pneumatique ou mécanique, envoie du vent dans un tuyau. Et chacune de ces rangées que vous voyez ici correspond à l'un des claviers que je vais vous faire entendre et qui sonne d'ailleurs aussi à des niveaux différents. Voyez-vous, voici. Ceci. Je vais retrouver à peu près les mêmes choses là. Voici des petits exemples. Et enfin, une deuxième catégorie de jeux, ceux-là très aigus, qui vous permettent de rendre ce qu'on appelle la polyphonie, c'est-à-dire l'écriture beaucoup plus claire, qui mélangée au précédent donne. Et enfin, une troisième catégorie de jeux qui, eux, s'apparentent davantage à des instruments à hanches, on les appelle d'ailleurs les jeux d'hanches, et j'en ai sur le grand orgue de Notre-Dame d'assez spectaculaire, en voilà un. Voilà d'autres. Quelquefois. Ou bien ceci. Ou bien cela. Et enfin, attention, ces grands tuyaux que l'on voit sur le devant, le couronnement de l'instrument juste derrière nous, c'est ce que l'on appelle les tuyaux de chamade, c'est-à-dire qu'ils parlent perpendiculairement aux autres, et voilà ce que ça donne. Alors le tout mélangé, bien entendu, donne la totalité de la sonorité du grand orgue de Notre-Dame de Paris, qui est quand même, il faut le dire, extrêmement impressionnante, puisque voyez-vous.
Philippe Villeneuve, je vous vois écouter cette archivina qui date de 1980. Pierre Cochereau, vous l'avez entendu jouer, vous ?
Oui. Je l'ai entendu, je l'ai vu jouer. Je suis monté à la tribune plusieurs fois. La première fois que je suis monté à la tribune, je ne sais plus exactement quand c'était, mais j'étais émerveillé parce que j'étais enfin arrivé là où personne ne va, enfin où peu de gens vont. Alors que je n'avais pas spécialement de légitimité à aller le voir. Je pianote un peu de l'orgue dans mon coin en emmerdant les voisins, mais mal, quoi. Donc je dis jamais que je fais...
Que vous faites de l'orgue, vous aussi.
Que je fais de l'orgue. Mais là, c'était... Oh là là, mon Dieu, j'étais du haut de la tribune. J'étais enfin à côté
du maître.
Du maître, voilà.
Il y a Viollet-le-Duc et il y a Pierre Cochereau.
Ah oui.
Les deux maîtres.
Ouais, complètement. Et puis, il y a un mélange des deux aussi, parce que celui qui fait la synthèse, c'est aussi Louis Vierne. Louis Vierne, qui était organiste aussi à Notre-Dame de Paris.
Avant
de
Pierre Cochereau.
De 1900 à 1937, il est mort... à ses orgues à Notre-Dame,
en plein concert. Il est mort en juin ?
En plein concert. Et lui, alors, il avait la particularité d'être très malvoyant. Et il a écrit des pièces, des symphonies notamment, et puis des pièces de fantaisie, où ça parle de gargouilles, de chimères, de fantômes, d'hymnes au soleil, de carillons, de cloches comme ça. Une musique extrêmement lumineuse et qui ne peut fatalement que s'inspirer aussi de Notre-Dame. Donc quelque part, c'est un petit peu le poète chantant de Notre-Dame. Et Pierre Cochereau, c'était le magicien, c'était l'improvisateur, c'était une fulgurance incroyable. Il y en a pas eu depuis. Il y avait Pierre Pincemaille aussi, mais il y a personne n'a remplacé Cochereau.
Ça vous transporte l'orgue ? Qu'est-ce que ça vous fait ?
Ben, ça me remplit de partout. Bon, j'aime bien quand ça pétarade. C'est pour ça que j'aime beaucoup là, lorsque Cochereau nous fait péter le touti. Et là, je pensais à ça tout à l'heure parce que, en ce moment, on est en train de démonter le grand orgue. Et je me disais, quand j'étais plus jeune. Je suis monté là-haut, j'étais à la tribune de Notre-Dame de nuit pendant les répétitions, c'est extraordinaire. La cathédrale dans le noir, et puis d'un coup, les grandes orgues qui se mettent à pétarader. C'était des moments extraordinaires. Et là, je suis en train de démonter cet orgue. Et je pensais pas qu'un jour, je serais celui qui démonterait l'orgue aussi. De même que j'aurais jamais imaginé que la cathédrale brûle. Mais ça me fait quelque chose de savoir que c'est moi. Bah, qui suis chargé de ça.
Vous qui avez été nommé en 2013 pour être d'une certaine manière le gardien de Notre-Dame et pas celui qui allait la démonter, c'est ça que vous voulez dire?
Bah, en fait, c'est quelque chose que je vivrai toujours très très mal jusqu'à la fin de mes jours. Quelques petits historiens se sont amusés, dès qu'on voit traîner un micro, il faut qu'ils y aillent. Par charité, j'ai pas donné son nom, mais se sont empressés de dire que deux jours après l'incendie, j'aurais dû donner ma démission par décence, voyez-vous. Ça m'a même pas traversé l'esprit une seconde. La seule chose que j'avais en tête, c'était de sauver la cathédrale. Comment le feu s'est déclenché, quelles en sont les causes, personne ne le sait. On le saura peut-être jamais. Donc c'est toujours un peu gratuit d'accuser les gens. Et bien sûr, certains ne se sont pas privés de dire que fatalement, c'était moi l'architecte qui était responsable de ça. Alors c'est assez violent à vivre. C'est même très très violent à vivre. Et je préfère me consacrer à mon travail. Mon travail, ça consiste à redresser la cathédrale, à la rendre au monde, à la rendre telle qu'elle était avant et même encore plus belle. Parce qu'on est en train de la nettoyer, elle va être lumineuse comme elle l'a jamais été. Quelque chose malheur est bon. Cette destruction va quand même permettre aussi de la remettre en beauté et en valeur.
Et on va retrouver le son de Notre-Dame, parce que justement là on l'a perdu, ce son, on a perdu cette ambiance, les pas feutrés, les chuchotements, la résonance, on va retrouver ça?
Ben, j'espère, et de toute façon, bon, il y a peu de chances qu'on les retrouve pas, parce que on va reconstruire les voûtes en pierre. L'acoustique de Notre-Dame, c'est 8 secondes de réverbération pour le grand orgue. Vous voyez, un accord plaqué, ça dure 8 secondes. Donc on va retrouver ça, puisque les voûtes sont en pierre, on va les reconstruire, ensuite les gens vont revenir, la vie va reprendre, et elle va reprendre... comme elle était avant.
Donc on va entendre à nouveau ce qu'on entend là.
Ben oui.
C'est un son très ample comme ça qui résonne. En cherchant à l'INA des archives sur Notre-Dame de Paris, on a fait une découverte magnifique. Une petite dame qui nous a beaucoup plu. Et je ne savais pas que cette fonction existait à Notre-Dame. C'est la gardienne des cloches.
Par son alliage or et bronze, le bourdon a un très beau son. Il rend le fa dièse en musique. Suivant l'orientation du vent, on l'entend jusqu'à 10 km aux environs de Paris. Le bourdon a 2,60 m de haut, 23 cm d'épaisseur au bord. Le battant à lui seul pèse 500 kg, une demi-tonne. Pour le faire actionner, c'est toujours le système primitif, le pédalier. Vous avez un pédalier de chaque côté. Sur chaque pédalier, 4 hommes. Il faut 8 hommes pour le faire basculer.
Le bourdon, l'âme et cette gardienne des cloches. Quand vous êtes arrivé en 2013, il n'y avait plus Philippe Villeneuve de gardien des cloches. Vous l'avez connue, cette dame?
Non.
C'était en 1900... Enfin, là, c'est une archive de 1951, mais jusqu'à quand
bon,
il y a
je
eu...
Je ne l'ai pas connue.
Non, je sais bien, je vois que je dis une bêtise. En le disant, je me suis rendu compte de ce que je disais, l'énormité. Mais il y avait des gardiens comme ça de plusieurs choses
Ah bah oui. Ah oui, parce que c'était gardien. Non, c'était quelqu'un qui faisait visiter les cloches. C'était pas, elle était pas là. Elle dormait pas dans la cloche, mais. Non, non, il y avait des gardiens. Moi, la première fois que je suis rentré dans la forêt,
la charpente.
Oui, c'est par un gardien que j'ai pu le faire. Alors, c'est très marrant parce que quand j'étais étudiant, j'étais guide à la basilique de Saint-Denis, et tandis que je faisais visiter à un groupe, je reconnais dans les visiteurs le gardien de Notre-Dame. Alors, je vais le voir à la fin. Et je lui dis bon, ben maintenant, je vous ai fait visiter la basilique Saint-Denis. Vous pourriez me faire visiter Notre-Dame. Et donc, le dimanche d'après, ou je sais plus quand, on a pris rendez-vous et il m'a fait visiter pour la première fois la forêt de Notre-Dame. Et donc, ça a été ma première fois. Là aussi, j'ai toujours réussi à rentrer un peu dans Notre-Dame par des petits chemins détournés. Très souvent, je regardais les voûtes pendant les concerts. Je regardais les voûtes comme ça, et j'allais toujours à Notre-Dame pour, je fêtais mon bac parce que j'ai fini par l'avoir quand même.
Bah oui, vous avez fini par finir votre maquette et avoir votre bac.
Puis ensuite, quand je suis devenu architecte,
vous avez été à Notre-Dame pour fêter ça.
Je vais toujours à Notre-Dame. J'allais pour ça. Maintenant, elle me manque parce que j'ai plus d'endroit où aller. Mais c'est une cathédrale, finalement. Un jour, quand je regardais les voûtes, je me disais peut-être qu'un jour, mais j'osais même pas rêver que je deviendrais un jour, qu'on me nommerait un jour à Notre-Dame de Paris. C'est un truc.
Oui, c'est ça. Ça a été en 2013, quand on vous a dit que vous alliez être en charge de Notre-Dame de Paris, Philippe Villeneuve. Vous avez réagi comment?
Alors, j'étais parti ce jour-là. Je savais que c'était ce jour-là, et je suis parti à Chambord, parce qu'à l'époque, je m'occupais du domaine de Chambord, et je suis parti faire un relevé. Ça m'occupait, comme ça, j'étais avec mes collaborateurs, on faisait pierre à pierre un escalier. Puis, dans l'après-midi, on me téléphone et on me dit « Bonjour, est-ce que ça te dirait d'être l'architecte en chef de Notre-Dame ?» Et là, j'ai réellement les genoux qu'on fait le bedeux. Et je crois que j'ai poussé un énorme cri dans la cour du château de...
Vous êtes tombé dans les pommes ?
Non, 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 mais j'ai pas réagi. Enfin, j'ai été... Je croyais pas. Donc, en fait, faut toujours croire à son destin, parce qu'écoutez, quand j'étais petit, j'osais même pas en rêver. Voilà, et maintenant que je suis là avec tout le chantier qu'il y a là... je me dis, si ça se trouve, j'ai peut-être été nommé pour faire ce que je suis en train de faire.
Mais c'est votre destin.
Oui.
Vous y croyez, au destin?
Ah oui, oui. Je pense que tout est écrit, c'est simplement le moyen d'y arriver qui nous est laissé à discrétion. Mais je pense qu'il est écrit que vous irez là et pas ailleurs.
Et vous, il était écrit que vous seriez là?
Sans doute.
Et même au moment où la cathédrale serait en danger.
Sans doute.
Elle ne l'est plus.
Elle est toujours un peu fragile, et puis on n'a pas encore tout terminé de la sécurisation. C'est quelque chose qui est un peu long, que d'ailleurs certains s'amusent à ralentir, mais on va s'en sortir, oui.
T'en sais rien, oh, t'en sais rien. Jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien, mais t'en sais rien. Oh, t'en sais rien, tu souris comme une image. Est-ce au diable ou au saint? Le faux comme une flèche qu'on décoche. Blesse ceux qui tenteraient une approche. Mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. D'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien. Tu en joues, tu en joues. Des ombres chinoises, des nuits à crier au loup, tu t'en fous, tu t'en fous. Pleine et l'ardoise, le dupe c'est toi avant tout. Le faux comme une flèche qu'on décoche. Blesse ceux qui tenteraient une approche. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tout va.
une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Philippe Villeneuve, cette playlist vous allait parfaitement. Jusqu'ici, tout va bien.
Ah bah oui, oui, jusqu'ici, ça va, oui.
Alors, 19 décembre 1979, c'est donc votre journée particulière, Philippe Villeneuve. En 1979, c'était aussi l'année de l'ouverture du premier McDonald's à Paris.
Non.
Mais si.
Donc depuis 79, je suis devenu gros à partir de 79. Alors.
Peut-être. C'est aussi l'année du grand concert à la Concorde de Jean-Michel Jarre pour le 14 juillet. Vous vous en souvenez de ça?
Non.
Il jouait de l'orgue pourtant.
Ah, mais c'est pas parce qu'il y a des claviers que... Non, je ne m'en souviens pas trop.
Et surtout, Philippe Villeneuve, c'était la sortie du film Muppet Show. C'est tout vous.
Ah, c'est tout moi, ça, ouais.
Pourquoi?
Ah, ouais, tout. Bah, parce que là, je suis obligé de prendre des airs extrêmement sérieux. Enfin, moi, ma réputation, c'est pas d'être franchement un type un peu triste. Je suis plutôt. Je décompresse sans doute les choses que je fais très sérieusement. Je les fais pas en me prenant au sérieux, surtout pas. Et je crois que ma manière d'évacuer tout ça, c'est de sortir beaucoup de... Enfin, je vais pas dire le gros mot, mais j'en fais beaucoup.
Et vous faites des imitations de Muppet Show?
Non. Qui c'est qui vous a dit ça?
Vous, à l'instant.
Oui, mais c'était hors antenne.
Et vous ne voulez pas?
Non, faire le chef suédois, non.
Vous ne voulez pas faire le chef suédois?
Bidouche, bidouche, bidouche. C'est tout. Mais là, je suis en train de briser ma carrière avec vous, là.
Mais non. Vous êtes nommé
si
déjà
la ministre nous entend.
Architecte en chef des monuments historiques en charge de Notre-Dame de Paris. Au contraire, ça lui fera plaisir de voir que vous allez quand même bien. Mmh. Bon, trêve de plaisanterie, Philippe Villeneuve. 1979 a été une année difficile aussi. Elle a commencé avec la chute du régime Pol Pot au Cambodge et celle du Shah d'Iran. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de l'année, enfin 1979, l'ayatollah Khomeini était encore assis sous son pommier à Naufle-le-Château, en France.
Le principal opposant au régime iranien, l'ayatollah Khomeini, ne cesse de lancer des appels à la révolte. Il les lance de Paris, car c'est là que depuis la semaine dernière, il a trouvé refuge, dans un endroit jusqu'alors secret. Bernard Benyamin a pu le localiser. Il n'a pas pu lui parler car l'ayatollah s'est refusé à toute déclaration sur le territoire français. Mais les images que nous rapporte notre reporter sont déjà assez parlantes, je crois.
Un peu d'Orient dans la banlieue parisienne. Cet homme sous un pommier, c'est le chef le plus prestigieux de la religion chiite, l'adversaire le plus acharné du Shah d'Iran. C'est l'ayatollah Khomeini dans sa retraite de Naufle-le-Château après 15 ans d'exil passé en Irak.
Alors Philippe Villeneuve, vous vous souvenez de ces images de l'ayatollah Khomeini sous son...
Oui. Ça m'avait. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ça m'a marqué. Je sais pas. Je pense que c'était assez terrifiant en réalité.
Cette image-là avec tous ces gens qui venaient le voir.
Oui. Et de se dire qu'après, en fait, ce pays ensuite est devenu la proie à cette révolution, tout ça, toutes ces... L'Iran est un pays que j'aime beaucoup. C'est une culture que je trouve belle, ravissante.
Et l'architecture
absolument magnifique. Et de voir que, ben voilà, à côté de ça, il y a ces violences, tout ça. Bon, voilà, ça fait réfléchir. Nous, on se dit qu'on a un beau patrimoine et que, bon, ben, on a des fois aussi des gens qui commettent des exactions sur le patrimoine. On a. C'est vrai que ça m'a marqué. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, à ce point-là, il faudrait que j'en parle à mon psy.
Ouais, bah vous lui en parlerez. Mmh. En parlant de patrimoine, en 1979, Jacques Chirac, alors maire de Paris, inaugure en grande pompe, vous savez quoi?
Je ne sais plus.
Le Forum des Halles.
Ah oui.
On vous a parlé du trou dans le budget tout à l'heure, un trou qu'il faudra bien combler d'une façon ou d'une autre, mais pour ce qui est du trou des Halles, eh bien, c'est fait. Le Tout Paris et quelques autres se sont rués aujourd'hui à l'inauguration du Forum des Halles, derrière Jacques Chirac, le maire de Paris. Monsieur Chirac a félicité les architectes pour, je cite, leur œuvre élégante et audacieuse dont le modernisme s'intègre avec bonheur à l'environnement du quartier, et il a insisté sur la rapidité avec laquelle l'opération des Halles avait été menée compte tenu d'extraordinaires difficultés techniques. En tout cas, pour les gens du quartier, pour les commerçants surtout, elles furent longues, ces 7 années ou 10 années, pendant lesquelles ils durent patauger dans la boue des chantiers. Quoi qu'il en soit, le forum est né, vive le forum, qui, avec le centre Beaubourg, va faire de ce quartier un des pôles d'attraction de la capitale. Jadis, les Halles étaient le ventre de Paris, ça va enfin devenir autre chose.
Le temps a passé, Philippe Villeneuve, depuis 1979, où on pensait que le Forum des Halles serait le pôle d'attraction de Paris.
Ah ben, il l'a été quand même un petit peu. Hein. Ouais. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'allais là pour acheter des fringues. Il y avait la FNAC.
Ouais.
J'étais comme par hasard des disques de Cochereau. Mais mais c'était un lieu qui était bon. Moi, je l'ai connu, j'étais adolescent, un peu comme ça, donc bon, pourquoi pas. Mais franchement, architecturalement, ça n'a jamais été ma tasse de thé du tout. J'ai toujours trouvé ça d'une laideur absolue. Je ne dis pas ce que je pense de celui d'aujourd'hui. Mais par exemple, à côté de ça, j'allais au Forum, mais j'allais aussi à Beaubourg, parce qu'il y avait une bibliothèque et j'y allais, notamment quand j'ai passé mon diplôme d'architecte, etc. Et Beaubourg, en fait, alors on aime, on n'aime pas, mais dans le principe, dans la conception, c'est pareil qu'une cathédrale.
Ah bon ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, une cathédrale, ça cherche à le maximum de surface à l'intérieur et toute la structure est reportée à l'extérieur. Eh ben, à Beaubourg, c'est la même chose. À l'intérieur, vous avez que du vide et toute la structure, toute la tripaille porteuse, elle est à l'extérieur. Et finalement, c'est la même chose. C'est la même. Il y a la lumière, il y a les grands espaces et la structure est dehors.
Ah, mais c'est passionnant ce que vous dites, Philippe Villeneuve. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Alors, vous avez écrit l'introduction, la préface de la description de Notre-Dame par Viollet-le-Duc, qui a été publiée aux éditions Équateur. Sur le site de l'émission, il y aura plein d'autres livres, d'autres références sur Notre-Dame que vous m'aviez conseillé de lire pour préparer cette émission. Bah oui, Philippe, j'ai fait ce que vous m'aviez dit. Et Philippe Villeneuve, aujourd'hui, c'est la dernière journée du patrimoine et on peut voir encore jusqu'à 19h sur le parvis de Notre-Dame des bouts de la forêt.
Des éléments de la charpente qui vont être peut-être pas remis en place directement, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas exactement quel dessin va avoir la charpente, mais on va voir effectivement des charpentiers en train de travailler sur ce que sera la future forêt de Notre-Dame.
Et à noter aussi la réouverture de la crypte archéologique de Notre-Dame au public depuis quelques jours seulement.
Depuis quelques jours, avec une exposition qui justement parle à nouveau de Viollet-le-Duc et de Victor Hugo. Donc,
voilà, tout ça pour rendre hommage encore à Notre-Dame de Paris.
Voilà.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, Alina Anne de Lavaux, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui Théo Gomard. On se retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. En attendant, passez un bon week-end.